Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis très heureuse de me connecter à toi aujourd'hui. On va discuter, on va parler de deux sujets extrêmement passionnants. Le premier est en lien avec le fait de s'aimer. Et dans ce podcast, je vais répondre à la question pourquoi s'aimer, c'est quelque chose d'égoïste. J'en ai déjà parlé dans mon avant-dernière Daily Newsletter et on a commencé à réfléchir sur le sujet. Aujourd'hui, on va aller plus loin en allant regarder du coup le pourquoi et l'origine de ce sentiment. Pourquoi on a tout le temps tendance à croire que l'autre est plus important que soi, notamment dans les relations amoureuses. C'est dans les relations amoureuses où ça crée le plus de dégâts parce qu'on a tendance du coup à se sacrifier et à tout donner à l'autre, à mettre le besoin des autres avant ses propres besoins et du coup à se négliger. Et ça crée forcément des déséquilibres dans la relation. La deuxième question, c'est une question que Angie m'a posée et c'est en lien avec le syndrome de l'abandon. Bien sûr, les deux sujets sont extrêmement intriqués, intimement liés et c'est pour ça que je les regroupe aujourd'hui ensemble dans ce podcast. On va commencer par le fait de s'aimer. Pourquoi s'aimer ? On a tendance à croire que c'est quelque chose d'égoïste. Alors, pour comprendre pourquoi, on a besoin de remonter à l'enfance. C'est un exercice qu'on peut bien sûr faire en psychanalyse, etc. Mais c'est un exercice que je vous amène à faire dans la méthode Happy Cure. Et de façon modifié de façon améliorée dans la nouvelle version de Happy Cure qui va sortir très très bientôt. Donc si tu fais partie de Happy Cure, tu auras l'occasion de travailler ce point-là beaucoup plus en profondeur. Tu recevras un mail dès que ce sera prêt. Et si tu ne fais pas encore partie de Happy Cure, c'est le moment de rejoindre le programme parce que du coup, tu auras la version améliorée. Alors, ce qui se passe, c'est que à l'enfance, quand tu es enfant, c'est extrêmement normal que tu dépendes de tes parents. Tu as besoin de dépendre de tes parents pour ta propre survie, n'est-ce pas ? Ça veut dire que tu dépends de tes parents à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la sécurité. C'est-à-dire que ta sécurité intérieure dépend directement de la protection de tes parents. Si tes parents ne sont pas là, tu n'es plus en sécurité. C'est-à-dire que tu es littéralement en danger de mort. Le deuxième point, c'est un besoin de... C'est une dépendance au niveau de la validation, au niveau de la guidance, ce qu'on peut appeler aussi un niveau de leadership. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu as besoin de la validation, tu as besoin d'un adulte qui te met des cadres, qui te met des limites, qui te montre le chemin, qui te dit du coup comment être une personne autonome. Donc tu as besoin d'apprendre à être une personne autonome avec la guidance d'un adulte. Le troisième point, c'est un besoin d'écoute, un besoin de remplir tous les éléments pour combler, pour être comblé émotionnellement, pour trouver un équilibre émotionnel. Ça veut dire que en tant qu'enfant, les adultes, les figures parentales, ont besoin de jouer ce rôle qui est un rôle de guidage émotionnel aussi. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, un parent fait et prend le rôle de guidance émotionnelle quand il fait effet miroir, c'est-à-dire que quand il accepte, quand il reconnaît les émotions de l'enfant qu'il a en face de lui, au lieu de les réprimer, au lieu de lui dire qu'il ne faut pas pleurer, au lieu de lui dire que ce n'est pas bien de ressentir ce qu'il ressent, ou tout simplement d'ignorer l'état d'âme et l'état émotionnel de l'enfant. Alors, donc ça, ce sont les trois points de dépendance. Et quand, dans une enfance idéale, quand ces trois points sont bien remplis, ce qui se passe, c'est qu'arrivé à l'âge de jeune adulte, il y a un processus d'activation de l'autonomie émotionnelle qui se fait. C'est-à-dire que, naturellement, l'enfant, l'adolescent, commence à devenir mature émotionnellement. Et du coup, il a de moins en moins besoin de la validation extérieure, de la guidance extérieure. Il a beaucoup moins besoin d'être comblé émotionnellement par les autres. Et il a beaucoup moins besoin de se sentir en sécurité par rapport aux événements extérieurs. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ces trois éléments n'ont pas été bien remplis? Pour X ou Y raison. Quand ces éléments n'ont pas été remplis, ce qui se passe, c'est que, premièrement, on apprend à avoir honte de soi. C'est-à-dire qu'on apprend que ce que l'on est n'est pas censé être. On apprend à être autre chose que ce que l'on est. On apprend à refouler, à renier et à masquer nos vrais besoins, nos vrais sentiments, nos vraies pensées. Et on apprend à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce décalage. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour coller aux attentes des adultes. Parce que justement, il y a cette dépendance. Donc on essaye de coller aux attentes des adultes à ce moment-là. Et quand on essaie de coller aux attentes des adultes, forcément, on met forcément de côté son moi authentique. On le cache, on le fait disparaître. Et donc, on ne peut pas aimer quelque chose qui est fake. C'est pour ça qu'on croit que s'aimer, c'est égoïste, parce que tout simplement, on ne peut pas s'aimer. On nous a, quand on n'a pas eu les bases qui mène vers la maturation émotionnelle en bonne et due forme quand on est enfant, eh bien, on ne peut pas s'aimer et on croit que s'aimer, c'est égoïste parce qu'on nous a toujours appris à être autre chose que soi-même. Et donc, on a associé le fait d'être autre chose que soi-même à un sentiment de sécurité, un sentiment de guidance, un sentiment d'amour. Et donc, en s'éloignant de qui l'on est, plus on s'éloigne de qui on est, plus on se sent coupable d'être qui l'on est parce qu'on reste au fond de soi, on reste un enfant. Et tu as cet enfant intérieur à l'intérieur de toi. Il existe encore. Tu n'as fait que le masquer. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on a tendance à croire que s'aimer, c'est égoïste? Parce que s'aimer, ça reviendrait à ne pas coller aux attentes des autres. Ça reviendrait aussi à se mettre en danger. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sécurisant, il y a beaucoup plus de bénéfices. Quand on n'a pas atteint cette maturité émotionnelle complètement, il y a beaucoup plus de bénéfices à penser que s'aimer est égoïste. Parce qu'en pensant ça, cette croyance nous sert de protection, nous sert de défense. Ça, c'est la première partie. Alors, maintenant, on va parler de l'abandon, du syndrome de l'abandon. Alors, le syndrome de l'abandon est lié, tu l'as compris, au même mécanisme de l'enfance. C'est lié à... Ça part vraiment de la même racine. Alors, c'est quoi l'abandon ? L'abandon, c'est cette menace implicite ou explicite qu'on va être délaissé par l'autre. C'est un lien d'attachement qui n'est pas sécure. C'est un lien d'attachement où on ne se sent pas en sécurité. Et donc, ce qui provoque la peur de l'abandon, c'est le sentiment que l'on est profondément en danger sans l'autre. Que notre monde va s'effondrer, qu'on va être dévasté. C'est lié au fait que l'on continue à croire que son enfant intérieur continue à croire que on va cesser d'exister, on va être anéanti, qu'il y a un danger de mort si l'autre part. C'est pour ça que ça nous fait tellement paniquer, la menace d'être quitté. C'est pour ça que ça crée des sentiments tellement intenses, des réactions tellement intenses, handicapantes parfois, d'auto-sabotage. Et c'est pour ça que parfois on reste dans des relations extrêmement toxiques et malsaines pour soi parce qu'on a peur d'être abandonné. Donc c'est quelque chose de viscéral. Je sais qu'on ne peut pas raisonner la peur de l'abandon. Et la seule solution, la seule issue à la peur de l'abandon, c'est d'entrer dans ce processus de maturation. Donc si tu as peur de l'abandon, si tu ressens l'abandon de façon successive et que ça te travaille et que ça te met dans des états pas possibles, ça veut dire que tu as besoin de poursuivre ton chemin de maturation émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que la maturation émotionnelle, c'est un processus normal. C'est un processus normal, il y a juste besoin de l'activer. Tu as toutes les ressources pour atteindre ta maturation émotionnelle. Tu as besoin, par contre, de l'activer. Donc, ça veut dire quoi l'activer ? Ça veut dire activer tes fonctions d'auto-apaisement, d'auto-équilibre, de sécurité intérieure, indépendamment de l'autre. Je veux juste préciser quelque chose, c'est que quand on se sépare avec quelqu'un, quand on se sépare avec quelqu'un qui est important pour soi, c'est tout à fait normal, c'est légitime de ressentir une profonde tristesse. C'est normal d'être en deuil, c'est normal de ressentir de la nostalgie, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de sentir qu'un bout de soi a disparu ou est parti. C'est normal que sa vie soit complètement chamboulée, qu'on perd ses repères. Tout ça, c'est tout à fait normal. Ça, ce n'est pas de l'abandon. L'abandon, c'est quand on se retrouve sans aucune ressource. Quand on est vraiment par terre et qu'on n'arrive pas à se relever, qu'on n'arrive pas à retrouver soi-même une sorte d'équilibre. Et quand on a l'impression que notre monde s'effondre totalement quand l'autre n'est pas là. Ça, c'est l'abandon. La tristesse de la séparation, c'est complètement autre chose. Et c'est normal. C'est normal de ressentir de la tristesse lors d'une séparation. Alors, je t'invite à faire la différence, du coup, déjà entre est-ce que c'est vraiment de l'abandon ? Parce que l'abandon, tu te dis, j'ai besoin de l'autre. Et sans l'autre, je ne suis rien. Ou sans l'autre, j'ai moins de valeur. Ou sans l'autre, ma vie a moins d'importance. Ça, c'est l'abandon. La tristesse, c'est ok. C'est vrai que je me suis habituée à cette personne. J'aimais sa compagnie. J'aimais la relation qu'on avait. Et aujourd'hui, je me sens triste que ce soit fini. Ce n'est absolument pas la même chose. Donc, je t'invite à regarder et à revisiter cette notion d'abandon. Est-ce que tu ressens vraiment de l'abandon ou est-ce que tu ressens une tristesse ? Maintenant, l'idée pour travailler le syndrome d'abandon et pour pouvoir diminuer l'influence négative que ça peut avoir sur les relations, parce que quand on a peur d'être abandonné, parfois on est capable de tout faire pour l'autre. Et ça nous mène à des schémas relationnels qui finissent par nous détruire. Nous détruire, par détruire l'autre. Et ça nous met dans des situations juste pas possibles. Donc, on a tout intérêt à travailler sur ce sentiment d'abandon. La seule chose que je peux te dire par rapport à ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, c'est que la part en toi qui a peur d'être abandonnée, ce n'est pas toi en tant qu'adulte, c'est ta part enfant. C'est ta part enfant qui a besoin d'être abandonnée. Et la part enfant qui est en toi, la seule personne qui en est responsable, c'est toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut t'abandonner, mis à part toi-même. Personne ne peut t'abandonner, mis à part toi-même. Donc, si tu ressens de l'abandon de façon répétitive, ce que ça signifie, c'est que tu as abandonné ton propre royaume intérieur. Ça veut dire que tu as abandonné tes propres besoins. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser, ce n'est absolument pas le but. Je te dis ça parce qu'il y a une note d'espoir là-dedans. La note d'espoir, c'est que tu peux reprendre carrément le pouvoir sur ta vie, sur ton royaume intérieur. Tu peux recréer une relation avec toi-même. Et en recréant une relation avec toi-même, tu changes du tout au tout ta perception de la relation et de la place de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne va plus remplir la même fonction pour toi que ce qu'il remplit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre remplit une fonction qui ne lui revient pas. Quand tu reprends ton pouvoir, tu assumes toi-même cette fonction. Alors, je sais que ce que je te dis là, ça peut paraître extrêmement compliqué, extrêmement vague, extrêmement théorique. C'est pour ça que je te découpe ça pas à pas dans la nouvelle méthode Apicure. Tu vas y trouver tous les éléments, toutes les étapes, toutes les méditations, tous les outils concrets pour que tu puisses travailler ton processus de maturation point par point, étape par étape, quotidiennement, jour après jour, jusqu'à ce que tu arrives à ce point de bascule où tu es en équilibre. C'est-à-dire où tu arrives à non plus être en dépendance, ni en indépendance, mais en interdépendance. Où tu prends ta place de reine dans ton royaume et où tu laisses l'autre prendre sa place, sa juste place dans la relation. Ça n'empêchera pas la tristesse, ni la possibilité de voir l'autre partir, parce que c'est le propre même des relations. Par contre, tu vivras les choses de façon complètement différente et surtout, tu profiteras davantage de tes relations. J'espère que ce podcast t'a été utile. Partage-le autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et surtout, si t'es pas encore dans ma daily news, dans la daily love letter, voilà, je vais y arriver. Si t'es pas encore dans ma daily love letter, eh bien, c'est le moment de t'abonner. Je t'envoie tous les jours, tous les matins, à l'heure de mon café, un email pour te redonner la confiance, pour te donner une piste de réflexion, pour t'inspirer à cultiver l'amour de soi et à devenir magnétique à l'amour que tu mérites. Merci d'avoir été là jusqu'ici, merci de me suivre, merci pour ta confiance et je te dis à très vite.